France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'ennemi, c'est notre sujet cette semaine, et les possibles liens avec notre période présente ne sont pas fortuits. Nous ne sommes pas les seuls en ce moment à avoir eu envie de penser l'ennemi. C'est aussi le thème cette année du forum Le Monde, Le Mans, qui se tiendra du 22 au 24 novembre au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Plusieurs de nos invités de cette semaine y seront. Avis aux auditeurs qui voudraient prolonger notre réflexion et se rendre au Mans. L'ennemi, c'est d'abord un mot. Et ce mot est si riche que nous avons souhaité commencer la semaine en partant de lui. Nous avons fait appel à un philosophe qui a un grand talent pour décortiquer les mots, leurs racines complexes, leur polysémie, leur histoire, et qui ainsi élabore volontiers une réflexion philosophique, c'est Robert Maggiori. Nous allons lui laisser carte blanche, en quelque sorte, pour réfléchir au mot ennemi et à tout ce qu'il dit de la chose. Et puis, nous avons proposé à une philosophe tout aussi talentueuse de converser avec lui et de déployer ses propres analyses. C'est Fabienne Brugère. Eh bien, bonjour Robert Maggiori, bienvenue.
Bonjour Géraldine.
Beaucoup vous connaissent pour vos articles dans Libération, des articles qui suivent pas à pas depuis de nombreuses années la vie philosophique dans ce pays et ailleurs. Vous avez aussi été professeur de philosophie en terminale au lycée de Fontainebleau, vous êtes cofondateur des Rencontres philosophiques de Monaco et vous avez établi un recueil de vos nécrologies de philosophes coédité par Vrin et les Rencontres philosophiques de Monaco en 2023. Et bonjour Fabienne Brugère.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 8 et sans vouloir tout déflorer de la richesse du mot, ennemi dont nous allons parler, je précise que vous avez écrit deux livres qui évoquent tant la racine latine inimicus, littéralement le ou la non-aimé, que l'autre racine, hostis, dont découle étonnamment l'idée d'hospitalité. En effet, vous avez fait paraître cette année chez Flammarion « Des aimés », manuel d'un retour à la vie, et déjà chez Flammarion en 2017 avec Guillaume Leblanc, vous avez publié « La fin de l'hospitalité ».
La radiodiffusion française vous prie d'écouter aujourd'hui mon ennemi intime, le violon.
La milice n'a d'autres adversaires à combattre que les ennemis du pays. Saboteurs de la politique du maréchal et de son gouvernement. Gaullistes provoquants et communistes leurs alliés. Prébendiers d'hier déçus dans leurs appétits. Organisateurs du mécontentement par l'ennemi. Le travestissement volontaire
en
des
France, chez les nazis, travaillez tous contre l'ennemi.
Ces forces écraseront l'ennemi.
Travaillez tous contre l'ennemi.
L'alcool en France reste l'ennemi public numéro un.
Enfin là, moi je parle à deux ennemis là. Il y en a un qui me parle, et puis il y en a un qui parle pas, qui est mon principal ennemi, qui est un salarié de l'ORTF, probablement syndiqué. Mais moi j'arrive pas, enfin un mec qui fait, un caméraman de CGT qui fait un gros plan sur Chirac, puis Chirac est en train de dire « à bas les syndicats ». Et il faut bien dire, ben là, là, si la classe ouvrière ou les ouvriers sont leurs propres ennemis, mais qu'est-ce qui va changer ?
C'était un petit mix, comme on dit ici, réalisé par Nicolas Berger. Vous avez entendu des extraits sonores de Philippe Henriot, Radio Paris, véritablement collaborationniste, à Jean-Luc Godard plus récemment, en passant par des extraits de Radio Londres. On a même entendu la voix de De Gaulle. Il y a beaucoup d'usages du mot ennemi, parfois métaphorique, l'alcool, parfois privé, parfois public. Robert Maggiori, nous avons besoin d'une clarification. À partir de quoi vous voulez-vous travailler au début ? Quel est votre point de départ pour analyser les enjeux de l'ennemi ?
Ben d'abord, la polysémie du mot, quoi, la multiplicité, c'est un peu comme l'amour, quoi. Je veux dire qu'en France, en français, dans d'autres langues, il n'y a qu'un mot. Et donc, on peut aimer les pommes de terre, les hôtes de Pindare ou ses enfants. Alors qu'il existe, je ne sais pas, en grec, 8, 9 mots pour dire l'amour. L'amour des enfants, l'amour des arts, l'amour des hommes, etc., etc. C'est un peu la même chose pour l'ennemi. Mm-hmm. Alors, je vais d'abord faire un petit exercice pour montrer la pauvreté de notre langue et la richesse de la langue latine et ou grecque pour simplement déceler ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans le vocabulaire grec, l'ennemi, c'est ektros, où on entend effectivement ektairo, qui est la haine. Déjà, il y a la haine. En revanche, dans dousmenes qu'utilise Homère, dousmenes, il y a la violence simplement dedans. Palinkotos, il y a la haine de nouveau. Aphilos, c'est le plus transparent. Et tout le monde connaît philia, philo, philosophie. Aphilos, c'est comme inimicus, amicus, c'est pareil, c'est sans amitié.
Inimicus, qui est un inimicus, mot voilà. Latin, premier ben pour dire l'ennemi.
Aphilos, c'est exactement synonyme. Ou alors, il y a polemios, où tout le monde entend la guerre dedans, oui, polemios. Il y a enantos, enantios, où il y a l'opposition, comme ça, le choc. Antaios, antadikos, antistates, oui, il y a tout ça comme mot. Si on passe en latin, il y a d'abord invidus, qui est très facile à comprendre, c'est le « je peux pas te voir ». Oui, c'est la question de « toi, je peux pas te voir », c'est la question du visage. Advenus, c'est celui qui est venu d'ailleurs. Externus, c'est pareil, c'est celui qui est venu d'ailleurs. Adversarius, oui, c'est celui qui est en face de moi, qui fait versant contre moi. Peregrinus, c'est aussi celui qui vient, effectivement, de loin. Peregrare, ça veut dire marcher, ça a donné pèlerin. Au Moyen-Âge, après, le pèlerin, c'est celui qui va regarder les lieux saints. Perduellis, qui est le mot pour, sans doute le plus utilisé avec hostis, qui signifie aussi, effectivement, l'ennemi. Il y a duel dedans, oui, chacun le voit comme ça. Et qui est proche de ribellis, qui a donné rebelle. Et qu'on trouve, je crois que c'est Tite Livre, je sais pas quoi, le rebelle, c'est, il est hostili animus adversus rem publicam ac principem. C'est celui qui a l'âme contre la République ou contre le prince. Du coup, ça nous donne, je laisse de côté hostis, parce que hostis fait vraiment problème, quoi. Il fait problème par sa polysémie, je pense qu'on va en parler avec Fabienne, parce que dans un premier temps, hostis, hostire, ça veut dire aequare, ça veut dire égaliser.
Oui.
Et comme l'étymologie indo-européenne voit dans le H, le GH de ghostis, qui a donné guest, gast, ghost, c'est-à-dire l'hôte en russe, en allemand, en anglais, ben, il faut voir qu'il y a d'abord la première idée, c'est l'idée de manger.
Mm-hmm.
Le ghost, c'est,
ah oui.
En italien, c'est il commensale, c'est-à-dire celui qui mange avec moi. Donc s'il mange avec moi, c'est que je l'ai accueilli. Et qu'il m'a apporté, effectivement, un certain don. Et là, ça nous renvoie à des tas de références ethnographiques, ethnologiques, par exemple au potlatch de Marcel Mauss, c'est-à-dire le don comme première forme d'échange. Mais si vous me donnez 2 minutes de plus, je vais aller encore plus loin. Je crois que pour comprendre l'ennemi, il faut remonter très très loin au premier... regroupement que je dirais de foyer ou familial, c'est-à-dire l'oïkos. L'oïkos, c'est la première assemblée d'individus qui sont tous liés par des liens familiaux, c'est un peu normal. Et l'oïkos, naturellement, il est menacé. Aujourd'hui, nous savons dire pourquoi. Il est menacé par une entropie, par l'endogamie. Au sein de l'oïkos va se dessiner très rapidement, vont se dessiner des zones qui vont constituer l'économie. Oui, économie, oikos, nomos, ça veut dire les règles de l'oikos. Le politique, le religieux, aussi la différence des sexes entre celui qui va chasser, celui ou celle qui ne va pas chasser. À mon avis, le plus important, c'est la notion de religion. Parce que elle appelle la protection de l'oikos. Si vous entendez dans religion, non pas religare, comme on dit toujours, c'est à relier l'alliance, mais relegere, relegere, que je vous conseille d'entendre comme contraire de neglegere, que tout le monde voit comme étant négligé. Donc la religion, c'est le contraire de négligé. Alors qu'est-ce que c'est le contraire de négliger dans l'oïkos ? Ben, c'est de faire des offrandes, des sacrifices aux dieux pour qu'ils protègent. C'est-à-dire, oui, on peut dire que la religion, c'est les mains qu'on met autour de la bougie quand il y a du vent, quoi, pour que la flamme se maintienne. L'oïkos est condamné à mort, si je puis dire, s'il n'y a pas une relation avec un autre oïkos. Et ça passe par l'échange des femmes et l'échange des marchandises. Si la religion... Du coup, ça devient un clan, après ça devient une tribu, après ça devient une société, après ça devient un État, et ainsi de suite. Mais restons au niveau du clan, si vous voulez bien. L'échange des femmes va permettre effectivement la perpétuation de l'oïkos. Mais au sein de l'oïkos, il y a l'idée effectivement qu'il faut toujours éviter ce qui peut déplaire aux dieux. C'est-à-dire ce qui peut être contre la religion. Et dans l'oïkos, il y a une zone particulière à protéger. C'est celle où quelqu'un un jour a eu l'idée d'ensevelir un cadavre. Le cadavre de son fils, de sa femme, de son frère, de qui vous voulez. Cette zone-là, c'est la zone sacrée. Donc autour de l'oïkos, au centre de l'oïkos, il y a la zone sacrée. Et tout autour, il y a la zone profane. Autrement dit, la première forme d'ennemi, c'est celui qui marche sur la tombe. Et qui donc fait tomber toutes les précautions qu'on avait prises face aux dieux, qu'il protège effectivement justement cette tombe. Donc le premier ennemi, c'est ça. Et quand quelqu'un dit, des fois ça m'amuse de le dire, moi je suis gentil, j'ai pas d'ennemis, mais la bêtise de cette phrase qui consiste à ne pas savoir ce que « gens » de « gentil » signifie. Oui, il y a de nouveau, on retrouve le clan, de nouveau on retrouve la tribu, l'oïkos. Il faut partir de là pour comprendre ce qu'est l'ennemi. L'ennemi d'abord, c'est celui qui vient d'ailleurs, oui, et qui profane effectivement la tombe.
Ce qui suggère qu'il est bien normal qu'il y ait en quelque sorte un aspect privé et intime dans l'idée d'ennemi et un aspect social, voire politique. Parce que la tombe, c'est l'intime, vous venez de l'expliquer très bien, c'est la domesticité, oïkos qui est concerné. Et puis en même temps, l'ennemi public, l'ennemi politique, il y a quelque chose qui déborde largement la sphère privée. Fabienne Brugère, on a coutume de dire, sans entrer dans l'immensité magnifique des points soulevés là, étymologiques par Robert Maggiori, on a coutume de dire qu'il y a inimicus, c'est-à-dire celui qui n'est pas ami, qui relève de la sphère privée dans ennemi, et il y a hostis, qui quand même engage assez vite l'ennemi public et la question de l'ennemi en vérité tel que nous la pensons spontanément, politiquement. Les deux aspects, le privé et le public, se sont-ils séparés d'après vous? Faut-il toujours les penser ensemble, comme vient de le dire au fond Robert Maggiori?
D'une certaine manière, si on repart, comme l'a fait Robert, et je crois que c'est essentiel, de la notion d'oïkos, l'oïkos, c'est ce qui dit toujours, finalement, la loi de l'identité, de la limitation, de la garde. C'est ainsi qu'on peut définir, finalement, l'intérieur. Donc, il y a toujours une idée de limitation. Et cette notion de limitation, à mon avis, elle est à la fois toujours privée et publique. C'est-à-dire que, précisément, l'étranger que l'on va ou ne pas faire entrer chez soi, bien évidemment, c'est un rapport à l'intérieur, mais c'est un rapport aussi à l'extérieur, puisqu'il vient de l'extérieur, puisqu'il est autre. Donc, il y a toujours dans l'oïkos la loi du même et de l'autre, la nécessité de préserver le même, mais aussi on préserve le même en codifiant l'altérité, c'est-à-dire en faisant entrer l'autre sous certaines conditions. Et dans ces sous certaines conditions, il y a forcément déjà quelque chose qui transgresse la loi intérieure, qui transgresse le privé. Donc je crois que dès qu'on parle d'oïkos, on parle finalement d'une économie domestique et on parle forcément de quelque chose qui combine le privé et le public et qui combine le même et l'autre. Après, c'est vrai que l'étymologie, elle nous fait différencier, comme vous venez de le rappeler, un sens privé et un sens public de l'ennemi. Et qu'il y a bien évidemment dans cette différenciation, une pertinence. Je crois que la pertinence, elle tient au fait que l'ennemi, ça peut à la fois être l'ennemi privé, c'est-à-dire ce qui renvoie à un lien profond, à des relations intimes. Et en ce sens-là, de mon point de vue, dans le sens vraiment privé de l'ennemi, il y a quand même un rapport, évasif à l'amour et au désamour. Parce que précisément, la racine latine renvoie à cette proximité entre amis, entre l'amitié et l'amour. Et donc, forcément, si on met le privatif in, oui, eh bien, cet ennemi privé, il est quand même sur une frontière qui confond les questions de l'amour et de l'amitié et du rejet de cet amour et de cette amitié. On est sur quelque chose qui dessine encore, malgré tout, je dirais, la possibilité d'un lien, la possibilité d'une relation intime. En revanche, l'ennemi public, c'est vraiment celui que l'on constitue en ennemi. C'est-à-dire qu'il y a dans cette figure-là l'élaboration d'un nous, oui, communautaire ou étatique ou en tout cas sociétal qui pose précisément une figure de l'ennemi. Et dans ces cas-là, l'ennemi, il faut profondément le constituer. Il faut précisément, eh bien, des discours qui le constituent comme ennemi. Il faut des actions qui le constituent comme ennemi. Et donc, dans cette figure de l'ennemi public, il y a vraiment, de manière beaucoup plus radicale, la constitution d'une différence. Et d'une différence, je dirais, d'une certaine manière, forcée, théâtralisée et précisément durable.
Alors, vraiment merci là, tous les deux. Je trouve que vous nous donnez une leçon d'analyse des mots et des enjeux qui est magnifique. Et j'entends aussi que l'ennemi public, hostis, est construit, mais il n'est jamais autant ennemi, j'entends un peu ça dans ce que vous dites, que lorsqu'il touche en même temps quelque chose d'intime. Et donc on va revenir à ce que vous disiez sur le fait de profaner une tombe parentale, à quel point là l'ennemi public touche à l'intime et c'est peut-être la racine de ce qu'il y a de plus grave dans la notion d'ennemi. Nous allons revenir à Hérodote puisque c'est vous, Robert Maggiori, qui avez suggéré ce texte des histoires. Hérodote, donc historien grec, on écoute.
Si une proposition était faite à tous les hommes, les invitant à choisir les plus belles coutumes parmi l'ensemble de toutes les coutumes, chacun aurait beau les examiner, il choisirait les siennes propres. Tant est coutumière à chacun la croyance que ses propres coutumes sont les meilleures. Il est donc invraisemblable qu'un homme fasse de cela un objet de risée, à moins qu'il ne soit fou. Que telle est la croyance coutumière de l'ensemble de l'humanité sur la question des coutumes, on peut l'évaluer, entre autres preuves nombreuses, par ceci. Pendant son règne, Darius appela des Grecs qui étaient là et leur demanda à quel prix ils voudraient bien manger leur père à leur mort. Ils répondirent qu'ils ne le feraient à aucun prix. Puis Darius appela des Indiens qu'on appelle Calati, qui mangent leurs parents, et leur demanda en présence des Grecs, à qui un interprète traduisait les propos, à quel prix ils accepteraient de brûler leur père par le feu après leur mort. Ils poussèrent de grands cris et lui demandèrent de ne pas blasphémer, tant ses croyances sont ancrées dans la coutume. Et Pindare me semble avoir bien raison de dire dans ses poèmes que la coutume est reine de toute chose.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de l'ennemi cette semaine et ce matin nous analysons ce mot, ses origines, sa polysémie. Je suis en compagnie de Robert Maggiori et de Fabienne Brugère. Robert Maggiori, pourquoi ce texte d'Hérodote vous apparaît-il comme un point autour duquel il faut toujours tourner et même auquel il faut revenir quand on analyse l'ennemi ?
Moi, je trouve ce texte fabuleux. Je veux dire qu'on peut, à partir de là, vraiment avoir une réflexion sur la naissance des territoires ennemis. Quand on lit nos anthropologues les plus célèbres, Lévi-Strauss, quand il parle des Indiens, il dit toujours, il y a toujours un mélange de guerre, échange et mariage. Je crois que ces trois termes expliquent comment, au sein de d'oïkoï différents, qui ont des usages, des coutumes différentes, des us et coutumes différentes, comment peut naître l'inimitié lorsque l'un d'eux, peut-être le plus puissant, voudrait que les autres se plient aux usages des premiers, avec le refus qui peut intervenir à ce moment-là. Et on voit bien que toute guerre, je mets entre guillemets parce que je voudrais prendre un sens global, vient de l'opposition entre des coutumes, entre des façons de s'habiller, entre des couleurs de peau, entre des façons de parler, et tous les... On trouve ça dans les mots, par exemple, je sais pas, les barbares.
Oui.
Vous voyez que les Grecs, ils donnaient un sens très précis aux barbares, parce que c'est ceux qui parlent pas grec, enfin qui balbutient. Les Romains, ils l'appliquaient surtout aux Germains, parce qu'ils disaient que c'était des homines feroces, iac feri, c'est-à-dire des hommes féroces, sans... et qu'il y avait des modes d'agir qui choquaient les Romains parce qu'ils étaient en désordre, incohérents, trop, comment dirais-je, trop exubérants. Ça, c'était les barbares. Donc, le barbare, c'est celui qui ne parle pas la même langue que moi. Alors, avec, on peut compléter, celui qui ne mange pas la même viande que moi, celui qui a des interdits que moi, je n'ai pas.
Et si je puis me permettre, dans ce texte d'Hérodote, ce qu'on entend, c'est que ce qui me fait horreur, à un moment, dans l'autre qui a d'autres coutumes, c'est lorsque vraiment c'est contraire au traitement que j'ai de mes ancêtres. C'est vraiment la question de mes parents morts.
Absolument.
Et si on fait quelque chose avec ces parents morts qui m'est absolument épouvantable, certains refusent qu'on les brûle, certains refusent qu'on les mange, d'autres au contraire disent qu'il faut les brûler ou les manger, ça. C'est là le point, c'est lorsqu'on touche à ma famille, à ma lignée, que l'ennemi se constitue dans toute son acuité.
Oui. Mais je crois qu'il faut le prendre, Fabienne le disait tout à l'heure, ni dans le sens personnel, ni dans le sens social. C'est les deux à la fois.
Oui.
Parce que la profanation d'une tombe, ce n'est pas simplement une offense faite à mes parents, ou mon frère, ou mon fils. C'est à la société tout entière, puisqu'on la met en danger, effectivement, en ne correspondant pas aux vœux que voudraient les dieux, et ainsi de suite. Donc c'est à la fois personnel et pas personnel, c'est-à-dire, et politique, on dirait, puisque si on le relie effectivement à la police, etc. Et donc, ça me paraît assez important de toujours distinguer. Dans l'histoire des mots, une chose est très claire, c'est que inimicus,
oui,
est personnel. Aucun auteur latin ne l'utilise au sens public. Et ce qui est public, c'est hostis. Donc, c'est l'hostilité qui est publique. L'inimitié, elle est personnelle.
Je vous laisse, Fabienne oui, Brugère, continuer cette analyse.
Ce qui m'a frappé dans le texte d'Hérodote que Robert a choisi, mais ce n'est pas très étonnant, c'est la proximité avec Hume. Bon, Hume était un lecteur.
David d'Hérodote. Hume, le philosophe oui, anglais du XVIIIe
oui,
siècle.
Parce que, oui, parce qu'en fait, les coutumes déterminent elles déterminent des habitudes. Elle détermine des habitudes et elle détermine aussi des attachements. Et quand Hume tente de définir la nature humaine, il explique que la nature humaine, si c'est une boîte vide, et on la remplit avec précisément les habitudes qui déterminent des coutumes. Et les coutumes, c'est précisément ce qui fait la puissance de nos manières de vivre. Donc quand des coutumes s'opposent, ce sont des manières de vivre qui s'opposent. Et du coup, on voit bien comment se constitue une figure de l'ennemi qui est à la fois privée et publique. Tout comme les attachements, ils sont à la fois privés et publics. Il y a des attachements sociaux. Donc, vraiment, cette proximité d'Hérodote à Hume m'a frappée. Et j'ajouterai à nouveau, dans le cas de cette proximité, que Hume écrit aussi que, en fait, nous considérons comme barbares les goûts qui ne sont pas les nôtres. Et nous les appelons mauvais goûts. Et ça, ça dit beaucoup de choses sur la manière dont nous constituons l'ennemi. Nous constituons aussi l'ennemi comme celui qui n'a pas nos goûts, comme celui qui n'a pas les mêmes attachements, comme celui qui n'a pas les mêmes coutumes, qui n'a pas les mêmes habitudes.
Alors, il y a un point tout de même un peu étonnant. Vous avez parlé du barbare ou de celui qui n'a pas les mêmes goûts et les mêmes coutumes que nous. Mais pour un grec, le barbare, il était méprisable. Il y avait une inégalité entre le grec et le barbare du point de vue du grec. Or, on a l'impression que la constitution de l'autre en hostis, en ennemi, lui donne un statut égalitaire. C'est encore un seuil qui est franchi, et c'est ce que dit Benveniste, grand linguiste du XXe siècle, analysant ce qui se passe dans l'usage du mot « hostis ». Je vous propose d'écouter ce texte d'Émile Benveniste. On écoute, c'est à nouveau, je crois, Antoine Ravon qui...
Un hostis n'est pas un étranger en général. À la différence du peregrinus, qui habite hors des limites du territoire, hostis est l'étranger en tant qu'on lui reconnaît des droits égaux à ceux des citoyens romains. Cette reconnaissance des droits implique un certain rapport de réciprocité, suppose une convention. N'est pas dit hostis quiconque n'est pas romain. Un lien d'égalité et de réciprocité est établi entre cet étranger et le citoyen de Rome, ce qui peut conduire à la notion précise d'hospitalité. En partant de cette représentation, hostis signifiera celui qui est en relation de compensation, ce qui est bien le fondement de l'institution d'hospitalité.
Donc, si l'on en croit ce texte de Benveniste, Robert Maggiori, le fait de constituer l'autre en hostis, en ennemi, c'est quand même lui donner un statut d'égal par rapport à moi.
Oui, bien sûr. Sauf que Benveniste ajoute que dans hospites, il y a le mot pote, qui est le maître, oui. Le seigneur de l'hospitalité.
Alors il faut expliquer qu'on passe de hostis à hospes, il faut expliquer voilà. ce problème étonnant.
Cette proximité étonnante, parce que l'hospitalité, elle est quand même régie par l'hôte, c'est-à-dire celui qui reçoit. Et celui qui est reçu, qu'on appelle aussi l'hôte,
oui, c'est troublant
aussi, curieux quand
oui.
même, ben, doit avoir un certain nombre de règles. Par exemple, à Rome, il y avait un certain nombre de règles de compensation, de dons, qui faisaient qu'un peregrinus qui venait de loin, il pouvait ensuite, effectivement, se marier, par exemple, à une Romaine, s'il avait une compensation, une sorte de green card qu'on lui faisait. Il avait le droit, à ce moment-là, d'épouser une Romaine. Mais c'est ce mélange entre hostis et hospes qui est vraiment étrange. Parce
que oui. Ça signifie,
Je crois qu'on peut le comprendre.
Le passage de l'un à l'autre est aisé. Hein.
Je vais prendre un autre mot pour mieux l'expliquer. Le mot rival, dont Hobbes parle pour la rivalité, il la met au centre de la naissance, de la guerre de tous contre tous. C'est bizarre, moi j'adore tellement les mots que vraiment...
Vous voyez,
le mot rival, ça vient de rivus, c'est-à-dire le rivage, le bord du fleuve. On se dit, mais qu'est-ce que viennent faire les fleuves ici? Ben, imaginez simplement deux individus qui prennent de l'eau au fleuve. Ils peuvent le faire de façon coopérative. Ils prennent chacun un seau, ils l'apportent dans une bassine pour partager ensuite. Mais ils peuvent aussi contrarier l'action de l'autre. C'est-à-dire que l'un peut vouloir plus d'eau que l'autre. Et il peut aussi vouloir que l'autre n'ait pas l'eau. Et veut s'approprier l'eau. Donc le rivalisme, qui est effectivement, qui sont sur le même bord d'un même fleuve, peuvent devenir effectivement soit hospes, hôtes de l'un et l'autre, soit hostis, c'est-à-dire soit ennemis. Et la guerre est proche. Ce qui est proche, c'est soit la guerre, soit la coopération.
Donc l'hospitalité est une des modalités d'accueil de l'autre qui peut aisément, c'est troublant d'ailleurs, se renverser en une hostilité. Peut-être d'ailleurs faut-il considérer que l'hospitalité doit, pour être bonne et saine et pure de toute hostilité, être brève, être régie par des normes simples et acceptées par tout le monde. Dans l'hospitalité, il y a toujours le risque que ça casse et qu'on revienne à l'hostilité. Fabienne
Bugère. Oui, ben oui, c'est de toute façon la proximité entre hostis et hospes. Elle dit quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas d'hospitalité sans hostilité. C'est-à-dire qu'on revient à la même chose depuis le début de l'émission. Je crois que les termes, ils sont toujours à deux et ils sont toujours avec un contraire et les deux se déterminent réciproquement. Mais plus précisément, je vois deux raisons dans cette proximité entre l'hospitalité et l'hostilité. C'est que, et ça se trouve en partie dans le texte de Benveniste. C'est quand Benveniste dit qu'un hostis n'est pas un étranger en général, ce qu'il dit finalement, c'est qu'il y a un statut de l'étranger où on lui constitue une place, où on lui laisse une place. Et que cette place, elle suppose des conditions. Et que justement, si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, l'étranger peut se transformer en ennemi. Et sur cette idée que l'hospitalité, ça consiste à laisser une place, bah ça suppose finalement une certaine constitution et une certaine conception de l'altérité. De l'altérité comme pouvant être déterminée. Et dans la détermination d'altérité, il y a à ce moment l'idée que accueillir l'autre, cet étranger que l'on peut accueillir, c'est précisément celui dont on ne va pas abuser et qui ne va pas abuser nous. Et c'est là que, justement, l'hospitalité, pour qu'elle puisse fonctionner, suppose une réciprocité. Et du coup, on codifie la réciprocité. Et forcément, quand cette réciprocité, elle est détruite, c'est là que, précisément, peut se jouer le personnage de l'ennemi. L'étranger qui veut rester chez moi trop longtemps. Et donc la deuxième chose que Robert a déjà largement soulignée, et c'est que cette hospitalité, pour qu'elle puisse aussi fonctionner sur le mode de l'accueil et qu'elle ne se transforme pas en hostilité, elle suppose aussi que celle ou celui qui accueille soit du côté d'une forme de souveraineté. Il est quand même dans une forme de maîtrise de la relation. Et précisément, si cette maîtrise, elle est mise en danger, c'est-à-dire si celui qui est censé accueillir est tout d'un coup dans un état d'insécurité, eh bien précisément, la relation d'hospitalité ne sera plus effectuable. Elle ne pourra plus se réaliser. Donc l'hospitalité, c'est une relation qui suppose aussi un maître ou une maîtresse qui reste en tout cas souverain. Elle suppose l'acceptation de la souveraineté. Et quand il n'y a plus de souveraineté, eh bien précisément, c'est l'hostilité qui peut gagner parce que ce qui se joue, c'est une relation qui détruit ces codes, où les codes se désintègrent.
Vous voyez, en vous écoutant, oui, bah, allez-y Robert.
Je peux préciser parce que ça va exactement dans le sens de ce qui vient d'être dit et ça peut éclairer peut-être, parce que Benveniste ajoute quelque part que le passage du sens originel de hostis, comme effectivement hôte, à celui de ennemi, oui, correspond aussi à un passage politique, c'est-à-dire au passage de la société romaine archaïque où pouvaient jouer des relations plus personnelles, à l'égal ou extra-légal, peut-être affectives, à la civitas, c'est-à-dire à la civilisation, à la société romaine, pleine de lois. Et là, c'est plus difficile lorsqu'il faut légiférer. Parce que précisément, il n'y a plus cet aspect « je l'aime bien, il est gentil avec moi », etc. Maintenant, il faut avoir des règles, donc il faut fixer exactement « tu es étranger ou pas, tu viens d'où, etc. »« comment tu t'appelles, etc. » Il y a quelque chose de... Dans les sociétés archaïques, on disait toujours « hostis est », c'est-à-dire « tu es mon hôte ». Jamais on demandait le nom. Oui. Jamais on demandait « d'où tu viens ».
Mais, en même temps,
mais à partir du moment
bien
où il y a la loi, oui, la société, oui, on va, le voilà, nom va apparaître.
Et je me demande du coup, en vous écoutant, si la catégorie de l'hospitalité est la bonne toujours pour parler des étrangers qui viennent longtemps et qui sont des immigrants et qui viennent. À un moment, si on reste dans l'idée de l'hospitalité, ça peut facilement se renverser en hostilité. Vous venez admirablement de le dire. À un moment donné, quand des gens viennent s'installer chez nous durablement, ce n'est plus la catégorie de l'hospitalité. Ce sont d'autres règles de vivre ensemble qui s'imposent. Et c'est presque dangereux de mettre trop en avant l'hospitalité, cette vertu, parce que, comme vous venez de le dire, elle est limitée dans le temps, elle a des règles précises et elle peut très vite se renverser en hostilité.
C'est-à-dire que la question est la suivante, à quelles conditions l'hospitalité devient-elle politique ? Et forcément, là-dessus, le texte fondamental, c'est le texte de Kant, ce moment où il définit très précisément l'hospitalité politique comme un droit de visite. Comme un droit de séjour. Mais justement, ce qu'il pense, c'est bien le droit de séjour, ce qui pose une certaine manière aussi des limites, selon l'idée pour Kant que nous habitons tous la même terre et que cette terre, elle suppose la possibilité d'une circulation. Le problème aujourd'hui, je crois que on simplifie énormément la question de l'étranger. C'est-à-dire que ce que j'aimerais dire, c'est qu'à mon sens, politiquement, si on veut précisément se nourrir avec l'accueil d'autres populations, il y a trois verbes. Secourir, accueillir, appartenir. Oui. Et chaque verbe est pourvu d'actions, de règles, et de lois spécifiques. Secourir, c'est précisément l'urgence de quelqu'un qui va mourir en mer, par exemple. Accueillir, c'est le fait d'être capable de déterminer des lieux qui vont permettre justement de créer un séjour. Et appartenir, c'est toute la question de la citoyenneté et des conditions de la citoyenneté. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on décomplexifie la notion d'hospitalité. Ou en tout cas, on essaie de croire qu'il n'y a que cette question de l'hospitalité. Or, la question de l'hospitalité, elle ne peut pas se penser sans la complexité politique des trois verbes que je viens de citer.
Alors maintenant, on va parler des sentiments haineux qui sont logés dans la catégorie d'ennemis. On pourrait croire, au vu de la brutalité des guerres depuis si longtemps, que c'est l'ennemi politique qui suscite les haines les plus fortes. Mais ce n'est peut-être pas certain. Et donc je vous propose d'écouter ceci.
Tu seras jamais heureuse à LA ni nulle part ailleurs. Tu croiras avoir trouvé quelqu'un de mieux à l'opposé de moi. Et dans quelques années, tu te rebelleras contre ce type parce que tu veux avoir ton mot à dire. Mais en fait, tu t'en fous d'avoir ton mot à dire. Tout ce que tu veux, c'est te plaindre de ne pas avoir ton mot à dire.
Mais comment j'ai pu être mariée avec toi? Comment j'ai pu être cette femme-là? En fait, c'était un mariage de gamin.
T'as régressé. T'es retournée à la vie que t'avais avant de me rencontrer. C'est pitoyable.
Plein de gens me disaient que t'étais trop égoïste pour être un grand artiste. Et je te défendais. Ils avaient mille fois raison.
Mais ce que t'as fait de mieux, c'est derrière toi. T'es redevenu nul. Tu m'as toujours fait remarquer ce que je faisais de mal. Comme si je faisais tout de travers. Vivre avec toi, c'était d'une tristesse.
Quoi? Et c'est pour ça que t'es allé baiser quelqu'un d'autre?
Mais ça devrait pas te déranger que je l'ai baisé. Ça devrait te déranger que j'ai ri avec elle.
T'es amoureux d'elle?
Non! Mais elle me haïssait pas. Toi, tu m'as haï.
C'est toi qui m'as haï. T'as baisé quelqu'un avec qui on travaillait.
Ça faisait déjà un an qu'on couchait plus ensemble. Jamais je t'ai trompé.
C'est ça, c'était me tromper.
Oh, mais j'aurais pu faire tellement de trucs. J'étais au top et je voulais baiser tout le monde. Mais je l'ai pas fait. Je t'aimais et je voulais absolument pas te perdre. Mais putain, j'étais jeune. Et je voulais pas perdre ça non plus. Mais je l'ai quand même fait. Et toi, t'en voulais tellement et tellement vite. J'avais même pas envie de me marier, c'est vrai.
T'es devenu un vrai connard!
Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte! Morte que... Et si on pouvait me garantir quand il s'en sortirait, je prierais pour que tu tombes malade, qu'une voiture te renverse et que tu meurs!
C'est un extrait du film Marriage Story, réalisé par Noah Baumbach en 2019 avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Vous entendez évidemment les voix françaises. Ce qui m'intéresse, c'est l'envie de meurtre qui sort à la fin de cette logorée haineuse, de ce déchargement de violence verbale, est formulée, Fabienne Brugère, l'envie que l'autre soit mort.
l'envie que l'autre soit mort dans une dispute quand elle prend ses proportions, je dirais qu'il faut le comprendre comme le fait que dans la dispute, ce qui se joue à un moment ou à un autre, c'est la possibilité d'anéantir l'autre malgré sa présence. Et forcément, dans cette volonté d'anéantissement, il y a bien éminemment une envie de meurtre, c'est-à-dire qu'il y a une envie radicale d'en finir, non seulement avec la parole de l'autre, mais avec la présence de l'autre. Et puis par ailleurs, je crois que dans la question de la dispute, quand elle est portée à un tel paroxysme et qu'elle peut atteindre ce que l'on pourrait nommer l'irréparable dans une relation de couple ou dans une relation amoureuse qui n'est plus, je crois que dans ces moments-là, la dispute, elle témoigne d'un début aussi de travail du deuil. C'est-à-dire que...
On a besoin de la colère, dites-vous, elle est nécessaire, comme dans le deuil.
Voilà, on a besoin de la colère, parce que la colère, c'est comme si on pouvait tuer l'autre, et c'est comme si on avait la possibilité de faire comme un travail de deuil. C'est-à-dire ce moment où l'on va désinvestir sa libido du rapport à l'objet qui fut aimé. Donc l'envie de meurtre, c'est aussi... J'ai envie de faire un travail de deuil.
Robert Maggiori, votre réaction à tout ce qui vient...
C'est très beau ce qu'elle vient de dire.
Peut-être dit.
Mais avant de rebondir là-dessus, je voudrais dire deux choses par rapport à Kant.
Mais je vous en prie.
Parce que c'est quand même essentiel. Parce que Kant nous fait comprendre la nécessité du passage de la philanthropie au droit.
Oui.
Et puis du droit à la politique. Et si on reste au premier stade, la relation d'accueil ou d'hospitalité est toujours fragile. Premier point. Deuxième point, l'hospitalité coïncide avec le droit d'un étranger de ne pas être traité comme un ennemi. Point. Troisième point, et ça c'est Kant directement, c'est le droit de visite dont parlait Fabienne. Pourquoi ce droit de visite doit être respecté et on ne doit pas maltraiter l'étranger? Parce que, originairement, personne n'a plus de droit qu'un autre à occuper telle terre.
Donc je vous remercie parce que vous êtes revenu au problème. Je suis d'accord que nous n'avions pas creusé jusqu'au bout. Pour ce qui est de hostis, l'ennemi qui est lié souvent à la figure de l'étranger, l'hospitalité est une relation fragile. On ne peut pas penser sa venue sur notre terre durablement en restant dans la simple catégorie philanthropique de l'hospitalité. Autre chose doit se mettre en place. Donc je vous remercie d'avoir fait cette précision. Alors maintenant,
du philanthropique, il y a l'amoureux, enfin je veux dire le personnel. Là aussi, il faudrait se souvenir d'un certain nombre de points. D'ailleurs que dans l'histoire, avoir beaucoup d'ennemis, c'était pas mal. Il y avait même un proverbe que j'ai noté, « Quo plures hoste, tanto maior honor ». Plus on a d'ennemis, plus on a d'honneur. Puis il faut aussi se souvenir, là je vais aborder le propos de Fabienne, l'usage parfois bizarre du mot « ennemi » par exemple. Pétrarque appelle l'anémique, l'ennemieux au féminin, la femme qui le fait souffrir, qui lui donne ses peines d'amour, par exemple. Alors que, effectivement, Dante parle de l'ennemi, que le diable, par exemple. Donc l'ennemi, c'est le diable. Et le diable, comme chacun sait, c'est un principe de séparation.
Séparation entre quoi et quoi?
Le symbolique, symbolique, c'est le fait de rapprocher ce qui avait été séparé, symbolos, et le diabolique, c'est le fait de séparer, désunir.
Oui.
Donc là, effectivement, il y a un sens comme ça, un petit peu bizarre, de ce mot ennemi. Maintenant, dans le désamour, il est effectivement plus que probable que l'autre devienne, non pas l'ennemi, parce que le terme ne convient pas, c'est pas un ennemi.
Si, au sens étymologique, un inimicus, vous venez de le dire.
Mais parce que c'est pas simplement l'amour chez lui qui a disparu, ou l'amour chez moi qui a disparu. C'est bien plus que ça. C'est nos vies qui sont en danger. C'est pas simplement l'amour. Si c'était que l'amour, ce serait pas difficile. Un peu comme cette phrase cynique de quelqu'un qui, effectivement, vient de perdre son enfant, lui dit « Oh, ben, t'as qu'en faire un autre ». Oui, l'amour, on dit pas « t'en fais un autre ». Mais c'est toi que j'aimais, moi. Et donc là, c'est la question de vie ou de mort qui va au-delà de la question, effectivement.
Donc il est normal qu'il y ait de l'envie de meurtre dans une, dans une colère et une tristesse et un chagrin amoureux.
Mais c'est « vie ta tour, mort smer ».
Oui.
Ou alors « mort smer, vie ta tour ». C'est-à-dire, toi, ta vie, ma vie, ne sera ma vie que si tu meurs. Et ma mort ne sera ma mort que si tu continues à vivre sans moi. Donc là, il y a dans le passage de l'amour à la haine,
oui,
un supplément d'âme ou de non-âme, qui est le passage de la haine à la cruauté. Parce que la cruauté, elle n'est pas comprise dans la haine. La haine, elle peut être tout à fait froide. Mmh. Je peux tuer quelqu'un froidement, en lui coupant la tête froidement. La cruauté, c'est une fois que je lui ai coupé la tête, je lui marche dessus, je lui lance des pierres. Ça, c'est la cruauté. Donc, il y a dans le désamour quelque chose qui dépasse et qui atteint le sommet de la mania, de la folie, qui est celle de la folie amoureuse lorsqu'elle est active et lorsqu'elle est bien heureuse. C'est-à-dire que l'amour, les Grecs aussi avaient un mot pour dire l'amour qui était mania, justement.
Ah bon, mania pouvait vouloir dire amour.
C'était l'amour impétueux, l'amour fou.
La passion, ce qu'on nous on appelle la passion.
La passion. Mmh. Mais parce que les Grecs, ils en avaient tellement de mots.
C'est pas pour rien qu'ils ont inventé la philo, hein.
Non, mais ils avaient par exemple un dieu grec qui s'appelait Potos. Et Potos, ça peut se traduire par... le crush, ouais, c'était l'amour entre deux gamins, quoi, entre deux ados, qui était en Grèce assez courant, quoi.
Mais d'ailleurs, pour prolonger cette réflexion sur l'amour et le désamour et cette question de la place de la haine, c'est à renvoyer philosophiquement, je pense, à la question du sujet et à la question d'un sujet qui ne veut plus voir son objet quelque part. Quand Barthes écrit les fragments du discours amoureux, il dit que au sujet des histoires amoureuses, il ne prendra que la question du sujet qui aime et pas la question de l'objet aimé, parce que précisément on est sur une question où ce qui compte, c'est le sujet qui vit, qui parle. Et donc je pense que dans le désamour, on est face à quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que précisément la transformation de l'amour en haine, c'est aussi le fait que ce dont je parle, c'est moi. Et la manière dont, justement, de manière la radicale, je vais nier l'autre. La haine, c'est par excellence ce moment de soulèvement où, d'une certaine façon, je m'autorise à nier l'autre jusqu'à l'envie, justement, de meurtre. Et c'est donc radicalement l'instauration d'une philosophie du sujet qui ne veut plus reconnaître dans la relation la possibilité d'une réciprocité.
Et puis avec la prophétie, qui à mon avis participe de la cruauté que vient d'évoquer Robert Majuri, il y a de la prophétie, jamais tu n'aimeras plus, tu n'aimeras plus jamais. C'est fini, c'est un désir très fort, qui ressemble à un désir de meurtre, mais de meurtre de l'amour pour toi, plus jamais, plus jamais. Mais maintenant, ce que vous venez de dire sur haine et cruauté, invite à refaire le chemin inverse, passer maintenant du privé, de nouveau aller vers l'ennemi public. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la guerre, pas seulement dans la haine guerrière, mais dans le massacre, dans la cruauté terrifiante du massacre? Est-ce que quelque chose de cette guerre intime qui se joue sur un mode fantasmatique dans les rapports amoureux au moment des crises et des séparations, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre qui vient surgir à l'égard de l'ennemi public? C'est pas pareil la guerre et le massacre, Robert Majuri.
C'est exactement la même différence qu'il y a entre la haine et la cruauté.
Voilà.
D'abord, je voudrais dire un mot juste parce que je peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Lorsque vous parlez de l'ennemi public, c'est un terme très moderne.
Oui,
parce
c'est vrai,
que ça date exactement de 1934. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que c'est la première fois qu'un procureur américain qui s'appelait Cummings, je crois, parle d'ennemi public numéro un à propos de Dillinger, du bandit Dillinger. Avant, on n'utilisait pas le public enemy, c'est l'ennemi politique, l'ennemi social, etc.
Là,
pour revenir à nos questions d'amour et de désamour, je crois qu'il faut d'abord tenir compte, pour comprendre la violence qui peut naître du désamour, il faut aussi comprendre la violence qui est inhérente à l'amour. Parce que l'amour, c'est pas un petit sentiment gentil qui vous fait siffler dans la rue avec une feuille de marguerite dans la bouche. L'amour est passion. L'amour a dépassé, et là encore je vais être grec, est amour que s'il dépasse la philotia, c'est-à-dire l'amour de soi, comme disaient les Grecs, que s'il dépasse l'amour de l'amour. Or, nous confondons très souvent l'amour avec l'amour de l'amour. Ce que j'aime dans l'autre, c'est le fait que je suis en train d'être amoureux. Ou alors, l'amour du langage. Et l'amour de soi, c'est pas rien. C'est-à-dire, ce que disait Jean Kelevitch me semble extrêmement fort. C'est-à-dire que je dois donner à l'autre presque tout moi, mais presque. Parce que sinon, il n'y a plus personne qui continue à aimer. Donc,
pourquoi c'est violent, ça?
Mais c'est très violent parce que ça signifie une sorte de, comment dirais-je, d'évacuation de tout ce que j'ai de plus cher. Maintenant, c'est pas moi le plus cher, c'est toi. Alors maintenant, quand cet être manifeste un non-retour, une violence, un désamour, un abandon, etc., je suis pétrifié, je suis pétrifié. Et la seule manière de faire éclater cette pierre, c'est de la dynamité, d'être très violent, quoi, d'être très violent vis-à-vis de l'autre. La scène de ménage n'est pas aussi pacifique qu'on pourrait le croire, hein, parce qu'on pourrait considérer que la scène de ménage est une manière de dire « je pars, je m'en vais », et en fait c'est une manière de dire « je reviens tout de suite ». C'est une sorte d'aliment dialectique de l'amour. La scène, mais là, on n'est pas dans la scène de ménage, on est dans la scène d'adieu. Et quand on dit « adieu », il n'y a plus de Dieu qui tienne, quoi. Je veux dire, et donc, on s'écroule. Parce que ce qui était sacré, ben, profané.
Fabienne Brugère, vous allez d'ailleurs avoir le dernier mot. Parce que je trouve qu'avec tout ce que vous avez écrit là-dessus, vous le méritez vraiment.
Entre l'ennemi privé et l'ennemi public, ce qui se joue dans les deux cas, c'est la destruction d'un commun. Et l'impossibilité, désormais, du commun.
Et parfois, vous le dites aussi, je crois, on ne sait pas qui a commencé. C'est trop facile de dire, ah ben là, lui, il a trompé. L'entre-deux, il a cette dynamique propre. Et ce qui fait qu'il se casse, c'est très difficile de dire quelle est l'origine.
Oui. Après, il y a toute la question quand même des limites du mal. Des limites du mal que l'on fait à l'autre et de ce que l'autre peut accepter en la matière. C'est pour ça que cette question d'ennemi, elle pose aussi la question du bien et du mal.
Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci pour cette magnifique discussion. Je rappelle que vous avez écrit La fin de l'hospitalité, Fabienne Brugère, mais aussi un très beau livre chez Flammarion. Les deux sont chez Flammarion. Des amours. La fin de l'hospitalité, c'était avec Guillaume Leblanc. Et je renvoie Robert Maggiori à tous vos articles, et notamment aux Nécrologies de philosophes. C'est un livre magnifique chez Vrin, en partenariat avec les Rencontres philosophiques de Monaco. Je pense qu'on a bien fait de vous inviter avec une analyse de mots exceptionnelle ce matin. À présent, bien, c'est le moment de la chronique de Frédéric Worms. Je vous propose donc d'écouter le pourquoi du comment.
Pourquoi l'événement fait-il date ? Ce que l'on considère comme un grand événement dans nos vies, et même dans nos vies non seulement individuelles, singulières, la vôtre, la mienne, mais dans les vies collectives, dans l'histoire commune, ce que l'on considère comme un grand événement, c'est-à-dire très souvent comme un événement tout court, puisque pour nous l'événement c'est justement toujours le grand événement, ce que l'on considère donc comme un événement a toujours une caractéristique secondaire, une caractéristique supplémentaire, que l'on trouve parfois justement secondaire et marginale, c'est que nous le commémorons. L'événement, c'est ce que nous célébrons de manière régulière et souvent en l'inscrivant dans un calendrier avec une certaine date que nous célébrons, puisque c'est le principe de nos calendriers les plus fréquents, l'année suivante. L'événement, c'est ce que nous célébrons à une date que nous appelons un anniversaire. Cela paraît être une caractéristique secondaire. Nous fêtons les anniversaires de naissance, nous célébrons les anniversaires collectifs, des événements heureux ou malheureux qui ont affecté une société tout entière. guerre, et cela nous semble au fond normal puisqu'il s'agissait de grands événements. Mais peut-être pourrions-nous aussi dire l'inverse. Peut-être peut-on non seulement considérer l'anniversaire comme découlant logiquement de l'importance de l'événement, mais plutôt considérer que on appelle événement, on appelle grand événement, en tout cas on appelle événement fondateur, ce qui dessine quelque chose comme un avant et un après, ce dont nous fêtons l'anniversaire, ce dont nous célébrons le retour. Célébrer n'est d'ailleurs valable que pour les événements heureux, les événements positifs, en tout cas ce dont nous commémorons, le retour de la date, le retour anniversaire. L'événement, c'est ce dont nous fêtons, ce dont nous marquons en tout cas la place dans le calendrier et que nous marquons aussi par ce que nous appelons un anniversaire ou une commémoration. Il y a donc dans l'événement en réalité quelque chose de très précis. Nous n'appelons pas forcément événement tout ce qui arrive, tout fait qui surgit dans l'espace de l'expérience, même si, d'une certaine façon, l'événement, c'est déjà cela, c'est toujours le franchissement d'un seuil, le franchissement de quelque chose pour quelqu'un, ne serait-ce que le franchissement de son arrivée dans l'existence. C'est pourquoi la naissance est toujours considérée comme un événement. Mais même dans une myriade d'événements physiques, dans la physique statistique, où il y a des millions d'événements simultanés, ou dans le cosmos, on peut appeler événement quand même le surgissement de quelque chose ou de quelqu'un, dans l'existence, dans le fait d'être plutôt que de ne pas être. Mais bien entendu, cela ne sera pas forcément commémoré, sinon pour l'arrivée des êtres qui comptent pour nous, qui définissent pour d'autres un avant et un après, qui vont aussi avoir un rapport subjectif à leur propre vie, à leur propre naissance. Et c'est pourquoi les anniversaires de naissance, de mariage ou d'autres événements de nos vies sont si importants pour nous. L'événement, c'est donc ce qui franchit un seuil majeur pour un être donné, pour quelque chose et fondamentalement pour quelqu'un, mais quelque chose aussi qui, et c'est pourquoi l'événement a un rapport avec la vie, qui n'est jamais neutre. En réalité, beaucoup de philosophes ont cherché à définir l'événement soit comme une myriade de faits qui surgissent à la surface des choses, comme Deleuze l'a repris des événements des stoïciens, une poussière, une vapeur d'événements, ou au contraire comme un événement fondamental dans la lignée de Heidegger ou de Badiou qui constitue le sujet. Mais en réalité, les événements ne constituent pas les sujets comme tels, ils arrivent à quelqu'un pour le meilleur et pour le pire, pour la joie ou pour le malheur. C'est cette polarité vitale de l'événement qui en fait quelque chose de mémorable.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bellois, Anna Fulpin, Carla Michel et Antoine Ravon. Merci à tous, vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.